Bonjour à tous frères et sœurs. Et encore une fois, je vous souhaite un bon sabbat. Je vous invite à notre lecture biblique pour aujourd'hui, notre message de ce sabbat 31 août dans Matthieu 22. Notre lecture biblique se trouve dans Matthieu chapitre 22, versets 1 et 2 et versets 11 et 12. Matthieu chapitre 22, versets 1 à 2 et versets 11 à 12. Où nous lisons: Jésus, prenant la parole, continua à leur parler en parabole et dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces de son fils. Verset 11. Et le roi étant entré pour voir ce qui était à table, aperçut un homme qui n'était pas vêtu d'un vêtement de noces. Et il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et il eut la bouche fermée. Verset 13. Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-le pieds et mains, emportez-le et le jeter dans les ténèbres de dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Encore une fois, frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue, en quelque sorte, dans cette méditation d'aujourd'hui, de ce sabbat, du dernier jour de ce mois d'août. Je me suis un peu absenté, je ne vais pas me justifier. J'aimerais simplement d'ores et déjà plonger nos regards dans la parole de Dieu et faire cela au sujet de la question de la justice par la foi et de notre caractère. Nous voulons donc explorer et avoir quelques réflexions bibliques et inspirées sur la justice par la foi et notre caractère. C'est un sujet, frères et sœurs, qui, la justice par la foi, ce n'est pas un sujet sur lequel il nous manque des présentations. Il y a des présentations en abondance, même dans le monde francophone adventiste, sur le sujet de la justice par la foi. Simplement, la manière dont ce sujet est abordé nous montre souvent un certain manquement dans la prise en compte de tous les aspects qui sont compris et qui devraient être pris en compte lors de la présentation du sujet, non pas simplement de la justification, mais de la justice par la foi. C'est ce que nous voulons faire ici aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc, cette méditation, je l'ai appelée réflexion sur la justice par la foi et notre caractère, parce que ça ne peut pas être, à juste titre, appelé un exposé parfait, complet de la question, parce que on peut aborder le sujet de la justice par la foi de différents angles, tout en que ça reste pour autant vrai. Mais cela dépend quel accent nous voulons donner à notre étude. Et aujourd'hui, l'accent que j'aimerais que nous donnions à notre réflexion sur la justice par la foi, c'est celui qui a trait à notre caractère. Et donc, sans plus tarder, je vous invite à considérer avec moi la nature avec laquelle nous apparaissons premièrement devant Dieu. À savoir, nous en tant qu'êtres humains déchus, quelle est la nature par laquelle et dans laquelle nous apparaissons premièrement devant Dieu? Vous le voyez dans les paroles de Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Versets 10 à 12 et ensuite versets 23, ça nous donne une ligne logique qui nous présente cette nature dans laquelle nous apparaissons, je cite, je le répète, premièrement devant Dieu, c'est-à-dire avant que nous ayons goûté au don de la grâce de Dieu. Romains chapitre 3, verset 10, nous lisons: Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence. Il n'y en a point qui cherche Dieu. Tous se sont égarés et se sont tous ensemble corrompus. Il n'y en a point qui fasse le bien. Non, pas même un seul. Verset 23. Il enchaîne et il continue et ensuite il conclut par cela qui est directement lié à cette première parole de verset 10 à 12 et il dit verset 23, car il n'y a point de distinction puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En anglais c'est intéressant parce qu'il y a marqué and have come short of the glory of God et le langage français n'est pas à la ramasse pour une fois, à savoir que cela représente vraiment de quoi il s'agit et qu'est-ce qui est une conséquence fondamentale du péché de l'homme, à savoir l'homme est par le péché privé de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que par le péché, l'homme a perdu la gloire de Dieu. Qu'est-ce que nous lisions au verset 1 ? Il n'y a point de juste, non pas même un seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul homme juste sur la terre tel qu'il arrive premièrement devant Dieu en ses propres mérites. Vous voyez ? Donc telle est la nature dans laquelle nous apparaissons premièrement devant Dieu avant qu'il ait été accompli une quelconque œuvre du salut et de la grâce dans nos vies. Avant qu'il y ait eu quelconque régénération, telle est la condition dans laquelle nous sommes, et même après qu'il y ait eu une œuvre de régénération accomplie en nous, c'est encore la nature dans laquelle nous nous trouvons, sans prendre en compte les choses que Dieu ajoute et transforme dans notre esprit. Telle reste la nature qui est la nôtre, à savoir, il n'y a point de juste, qu'est-ce que c'est ? Il n'y en a point qui cherche Dieu, tous se sont égarés et se sont tous ensemble corrompus. Il n'y en a point qui fasse le bien, non, pas même un seul. À savoir, pas un seul, c'est-à-dire que vous et moi ne sommes pas exclus de cette équation qui met tous les hommes au même niveau, à savoir qu'aucun de ces hommes-là, y compris vous et moi, n'est juste, ni ne fait le bien, ni ne sait le faire. C'est intéressant et c'est important de pouvoir comprendre cette nature dans laquelle nous apparaissons sans aucune distinction, c'était marqué au verset 23, devant Dieu. Il n'y a point de distinction puisque tous ont péché et ce sont donc tous et sont tous privés de la gloire de Dieu. Et vous voyez ici que donc tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire que, comme je le disais, le péché a dépouillé les hommes. Vous le notez ici au verset 10, de la justice et de la gloire de Dieu. Vous le voyez ici, nous faisons des déductions bibliques auxquelles vous pouvez vous accrocher même lorsque vous avez zéro citation de l'esprit de prophétie sous la main. C'est important de pouvoir raisonner bibliquement parce que lorsque vous devrez rendre raison de votre foi avec crainte et tremblement, il vous faudra le faire non pas par l'esprit de prophétie mais par la parole de Dieu, la Bible. Non pas que l'esprit de prophétie ne soit pas le témoignage de Jésus, mais que l'esprit de prophétie est pour les croyants, mais non pas pour les incroyants. Pour l'Église et non pas pour le monde. Et donc, vous voyez ici, je le répète, le péché a dépouillé les hommes de la justice et de la gloire de Dieu. Et ces choses-là, d'ailleurs, soit dit en passant, sont pas simplement pour pouvoir expliquer et rendre raison de notre foi, mais pour pouvoir rendre raison de notre foi à nous-mêmes, afin que nous sachions pourquoi nous croyons les choses que nous croyons, et que non seulement nous le sachions, mais qu'en le comprenant, nous approfondissions notre relation avec ce Dieu qui a mis à notre disposition, je cite, la justice par la foi. C'est ce qu'on veut pouvoir explorer ici, aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Et donc, nous continuons cette exploration de prime abord au sujet de la nature dans laquelle nous apparaissons premièrement devant Dieu dans Ésaïe chapitre 64 et verset 6. Ésaïe chapitre 64 et verset 6 où il y a cette déclaration très succincte mais non pas sans importance, au sujet de nous, encore une fois, où il est écrit que tous nous sommes devenus comme un homme souillé et toutes nos justices comme un vêtement impur. Nous sommes tous flétris comme le feuillage et nos iniquités nous emportent comme le vent. Et ensuite, verset 7, vous voyez que c'est directement en harmonie avec ce que nous lisions dans Romains chapitre 3, verset 11, où il y a écrit ici dans 64, verset 7, « Et il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi, etc. » Hein? Qu'est-ce que c'était dans Romains chapitre 3, verset 11 ? Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y en a point qui cherche Dieu. Pourquoi ? Parce que tous sont devenus comme un homme souillé, y compris nous, parce qu'il dit « Nous, nous sommes tous flétris comme le feuillage. » Nous, dit Ésaïe. Donc, nul n'est exclu de cette équation. Ça n'a aucune importance si vous êtes réformateur depuis 10, 20 ans, 30 ans, 50 ans, que vous avez les cheveux blancs dans la réforme ou l'église adventiste, ça ne veut absolument rien dire. Vous êtes impliqué et inclus dans cette équation qui déclare que tous ont péché et sont privés naturellement de la gloire de Dieu. Donc, nous lisons que toutes nos justices sont comme un vêtement impur ou souillé. Hein? Qu'est-ce que c'était ? Il n'y a point de juste, non, pas même un seul. Pourquoi ? Parce que nos justices sont comme un vêtement souillé. Donc, même si l'homme veut pouvoir se justifier, tout ce qu'il va pouvoir ajouter, c'est davantage de souillure. Parce que telle est la justice de l'homme aux yeux de Dieu. Vous voyez ? Elle est imparfaite, elle est insuffisante. Elle n'est même pas juste. Du moins pas devant le grand Dieu. Et donc, nous poursuivons ici ce raisonnement, à savoir comment Dieu est-il défini ? Lisez avec moi les paroles de Esdras, chapitre 9, verset 15. Vous allez voir que nous allons quelque part avec tout cela. Simplement, ça va prendre un peu de temps pour que vous puissiez voir comme moi la destination de notre méditation dans Esdras chapitre 9, verset 15. Donc Esdras se trouve avant Néhémie, qui se trouve avant Esther. Esdras qui se trouve après 2 Chroniques, je crois. Esdras chapitre 9, verset 15, où il est écrit « Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste ». Ensuite, il continue, il dit « Car nous sommes demeurés un reste de réchappés, etc. » L'importance j'aimerais attirer votre attention ici, c'est la définition que la parole de Dieu nous donne de Dieu lui-même, à savoir, qu'est-ce que c'est ? Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste. D'ores et déjà, vous voyez que la parole de Dieu nous déclare que Dieu est défini par la justice. À savoir, la justice, c'est ce que Dieu est. Dans le sens que Dieu n'est pas simplement juste, mais la justice, c'est ce qu'il est. Vous pouvez voir cela parce que à d'autres endroits, il nous est déclaré dans la parole de Dieu, excusez-moi, je n'ai pas le passage, que la justice est le fondement de son trône, la base de son trône. Parce que c'est précisément le cœur de qui Dieu est. Et plus encore, dans Daniel chapitre 9, verset 16, nous ajoutons à cela ce qui nous permet de renforcer cette pensée biblique dans Daniel chapitre 9, verset 7. Excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai dit. Daniel chapitre 9, verset 7, il est écrit « À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face, comme elle est aujourd'hui aux hommes de Juda, etc. » Et ensuite, il dit au verset 5 « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons agit méchamment, nous avons été rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances et nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. » Ensuite, je réitère, il dit au verset 7, « À toi, Seigneur, est la justice, à nous la confusion de face. » Donc, à Dieu appartient la justice. Parce que Dieu est juste, et nous voyons donc à travers ce langage ici, et l'élargissement de tous les autres passages que nous avons explorés, que la justice, c'est ce qui définit qui Dieu est, à savoir la justice est caractéristique du caractère de Dieu. La justice, c'est le caractère de Dieu. Dieu est juste, la justice est à toi, Seigneur. Et donc, qu'est-ce que cela nous aide à conclure vis-à-vis de ce sujet que nous sommes en train d'essayer de contempler et sur lequel nous voulons réfléchir, de la justice par la foi. Mais tout d'abord, de notre condition dans laquelle nous nous, nous nous présentons et nous apparaissons premièrement devant Dieu. Nous avons vu, nos justices sont comme un vêtement souillé. Il n'y a point de juste, pas même un seul, il n'y en a point qui fasse le bien, hein, ce qui inclut vous et moi. Nous ne savons pas faire le bien. Il n'y a pas de justice en nous. Ceci est vrai quel que soit votre avancement dans la vie chrétienne. Nous voulons prendre cela en compte afin de mieux comprendre, si nous ne l'avons pas encore fait, le sujet de la justice par la foi. Et donc, réfléchissez avec moi ici. Parce que Dieu est défini par sa justice, on vient de le voir, tu es juste, à toi, Seigneur, est la justice. Hein, c'est carrément à lui, ça lui appartient, c'est ce qui est de lui. De même qu'il est déclaré que Dieu est amour, nous allons y revenir. Et donc, parce que Dieu est défini par sa justice et par sa gloire, nous le voyons aussi à d'autres endroits, hein, qu'est-ce que c'était ? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il n'y en a point de juste, c'est-à-dire que la gloire de Dieu, c'est également sa justice. Sa justice, c'est qui il est. Sa gloire, c'est également son caractère, comme on le voit dans Exode chapitre 33 et 34. Moïse disait « Montre-moi ta gloire » et ensuite Dieu a dit « Je ferai passer toute ma bonté devant toi » et ensuite dans Exode, chapitre 34 verset 6 il me semble, l'Éternel est passé devant lui et comment est-ce qu'il a fait passer, il lui a montré sa gloire en déclarant le caractère de Dieu. Miséricordieux, compatissant, lent à la colère, etc., abondant en grâce et en vérité. Donc la gloire de Dieu, c'est son caractère, sa justice est une définition de son caractère. Par le péché, nous avons perdu la justice et par conséquent, donc, le caractère de Dieu. Vous le voyez, le lien ici. Et donc, l'homme, par le péché, a perdu ces deux choses-là, la justice et la gloire de Dieu, qui sont tous des expressions de qui Dieu est. C'est le caractère de Dieu que l'homme a perdu par le péché. Vous voyez ? Parce qu'il a, il a perdu cette justice qui était l'image à laquelle l'homme avait été créé, c'est-à-dire l'homme a été créé à l'image de Dieu. Vous voyez ? Ainsi donc, l'activité de la justification et de la justice par la foi doit impliquer non seulement le pardon, mais également le recouvrement chez le pécheur du caractère de Dieu. Vous comprenez ici ? C'est là que nous voulons voir que le sujet de la justice par la foi implique plus que simplement un pardon, d'être pardonné. Que cela implique une transformation, pas juste théorique, mais du caractère actif de la personne concernée, à savoir le pécheur, à savoir vous et moi. Et c'est précisément ce que Jésus est venu sur la terre pour nous révéler. Rappelez-vous les paroles de Jean chapitre 17, notamment Jean chapitre 17, versets 3 et 4, nous permet de le voir, notamment ici, où Jésus disait, en réalité, vous pouvez trouver tout ce concept présenté tout à travers ce chapitre, ainsi que à travers d'autres, nombreux autres chapitres dans la parole de Dieu, au sujet de Jésus et de cette mission qui est la sienne de révéler le caractère de Dieu. Dans Jean chapitre 17, verset 3, vous lisez tout particulièrement, « Or c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Je t'ai glorifié sur la terre, disait Jésus. J'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire, verset 6. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole, verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont connu véritablement que je suis venu de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Vous voyez ici, Jésus disait, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Et qu'est-ce que cela veut dire? Parce que c'est une déclaration, mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, Jésus disait au verset 4, juste après, « Je t'ai glorifié sur la terre. » Et donc, connaître Dieu Et Jésus-Christ que Dieu a envoyé, c'est voir la gloire du Père révélée en Jésus. Parce que Jésus il disait, je t'ai glorifié sur la terre. Qu'est-ce que cela voulait dire? Pas juste qu'il avait chanté ses louanges, hein, on peut parfois utiliser ce langage à tort, à savoir je glorifie Dieu, etc. Comme simplement voulant dire que j'acclame Dieu ou je chante les louanges de Dieu. Mais la définition de ce terme dans les paroles de Jésus n'est exclusivement pas cela, et premièrement d'ailleurs pas cela, pratiquement pas cela du tout. Mais plutôt, c'est une manifestation, un reflet du caractère de Dieu. C'est ça que Jésus voulait dire. Il disait, verset 6, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. Comment est-ce que Jésus a manifesté le nom? Est-ce qu'il était en train d'écrire le nom de Dieu? Non, parce que nous avons vu que le nom de Dieu, du moins nous avons commencé à le voir, mais en tant qu'adventistes du septième jour, souvent nous y sommes déjà informés ou nous sommes quelque peu familiarisés avec ce concept, mais je le réitère, à savoir que dans Exode chapitre 34, verset 6, lorsque Dieu a fait passer sa gloire devant Moïse, il a déclaré son caractère. Et de la même manière, c'est ainsi que Jésus a manifesté aux hommes le nom du Père, à savoir en reflétant les attributs du caractère de Dieu. Et donc, c'est ici la première définition du fait que Jésus ait à glorifier le Père sur la terre, à manifester son nom aux hommes. Et cela est important pour le reste de notre méditation. D'ailleurs, en lien avant cela, avant que je poursuive, vous le voyez également dans les paroles de Jésus dans Jean chapitre 14, versets 6 à 9. Hein, vous connaissez ces fameuses paroles. Jésus disait à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, verset 9, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment donc dis-tu, montre-nous le Père? Vous voyez, donc Jésus avait déclaré, et en effet ici nous le voyons exprimé plus concrètement à travers son échange à la fois avec Thomas et Philippe, que il a glorifié, manifesté, fait connaître le Père à travers sa propre vie. Hein, vous le voyez? Donc Jésus a révélé le caractère de Dieu. Pourquoi? Parce que précisément les pécheurs, les hommes à travers, par le péché, avaient perdu le caractère de Dieu. Perdu à la fois de vue, perdu en pratique, perdu en amour, perdu en appréciation. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Se sont privés, ont perdu de vue, ont perdu le plaisir au caractère de Dieu. Vous voyez donc l'importance de l'exemple de Jésus et nous allons au-delà de simplement cela ici. Parce que nous voulons maintenant comprendre le principe de la justice par la foi dans cette introduction de ce caractère maintenant dans nos vies et comment cette introduction de ce caractère dans nos vies est exprimée dans les différentes manières par lesquelles la parole de Dieu exprime le sujet de la justice par la foi. Allez-y avec moi. Et donc, le processus de la justice par la foi. Alors, notez bien, nous ne sommes pas juste ici en train de parler de la justification par la foi. Nous sommes en train de parler de la justice par la foi et j'utilise ce langage parce que il permet d'englober à la fois la justification et la sanctification et de faire cela d'une manière qui fait que nous ne nous accrochons pas simplement au terme, mais que nous nous concentrons sur la réalité pratique par quelle concentration on va pouvoir prendre plaisir à la fois aux expressions et à la vocation qui est la nôtre à travers ces déclarations de la parole de Dieu. Donc, le processus, je disais, de la justice par la foi peut ainsi être brièvement résumé en ces quelques étapes. La première, nous la trouvons dans 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Donc, je suis en train ici de revisiter avec vous ce qui peut être considéré comme le béaba du chrétien, mais qui, si vous examinez la chose de plus près, est plus encore que simplement un béaba ou un ABC, mais est une compréhension fondamentale qui nous aide à, pas simplement à saisir le sujet du pardon, mais qui nous aide à saisir dans sa signification élargie le sujet de la justice par la foi. Regardez avec moi. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Et donc, on a vu dans quelles conditions nous arrivons et nous nous présentons et nous apparaissons naturellement devant Dieu, à savoir, il n'y a point de juste, il n'y a pas un qui fasse le bien, ils se sont tous ensemble corrompus, ils se sont égarés, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est comme ça que nous arrivons devant Dieu. Donc, nous sommes complètement misérables. Hein. La condition dans laquelle Jésus dit que le laodicéen se trouve, même s'il ne croit pas qu'il est dans cette condition, à savoir, tu es pauvre, misérable, aveugle et nu, et tu ne sais pas, etc. Bien qu'il dise je suis riche, etc. Mais bien, nous venons dans cette condition en étant conscients, lorsque nous avons été éclairés par la parole de Dieu et les exigences de la loi de Dieu, nous nous sentons condamnés et donc nous ressentons la culpabilité parce que la loi nous condamne et en effet elle doit le faire parce que nous sommes pécheurs, et donc nos péchés sont une transgression de la loi de Dieu conformément à la définition qui nous en est donnée dans 1 Jean. Mais lorsque nous venons à Dieu, nous ressentant ainsi coupables, si, hein, c'est ça le processus, parce que le verset 9 tout seul, ça n'a pas vraiment de pouvoir, pas de puissance. Parce que si vous lisez cela à quelqu'un qui n'a pas vraiment ressenti son sentiment de culpabilité devant la loi de Dieu violée et transgressée, ça ne l'intéresse pas. À savoir, si nous ne ressentons pas que nous sommes malades, nous ne ressentirons pas non plus notre besoin d'aller voir un docteur, un médecin, etc. Mais donc maintenant que nous ressentons, si tant est que nous le ressentons, que la loi nous a touchés au cœur, nous ressentons cette compunction, comme on le trouve ce langage dans Actes, eh bien, si nous confessons nos péchés, alors, qu'est-ce qui est la promesse ? Il, Christ, est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc nous avons cette assurance de la parole de Dieu par laquelle tel est le tracé et le processus dans lequel Dieu nous oriente en nous assurant de son pardon lorsque nous avons été trahis dans le péché, que nous avons glissé dans la tentation, que nous avons cédé aux tentations du diable. Alors, dans cette condition misérable dans laquelle nous nous trouvons, si nous confessons nos péchés, nous avons l'assurance et elle nous est donnée que Christ et Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et non seulement cela, mais ensuite pour nous purifier de toute iniquité. Mais alors, le processus par lequel Dieu nous purifie de toute iniquité vaut la peine pour nous de réfléchir davantage. Alors, nous poursuivons ce processus à travers les paroles d'Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Versets 1 à 7. Ça nous permet de revenir en arrière sur la condition dans laquelle nous arrivons devant Dieu, premièrement, et celle dans laquelle nous pouvons faire l'expérience de ce pardon que nous venons de lire dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 1, je lis « Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de la grande charité ou du grand amour dont il nous a aimés, lorsque nous étions morts dans nos fautes, nous a rendus à la vie ensemble en Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, tel est ici au verset 4 à 7 les conditions par lesquelles Dieu a pu nous formuler cette promesse de 1 Jean chapitre 1 verset 9, à savoir que si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Comment? Parce que dans sa riche miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, lorsque nous étions morts dans nos fautes, il nous a rendus à la vie ensemble en Christ. Mais pour nous rendre à la vie en Christ, il a fallu que Christ meure, afin qu'il puisse prendre nos péchés en lui sur le bois et mourir avec eux, afin qu'ensuite nous puissions, par la foi, en regardant à ce sacrifice, sacrifier nos péchés en Jésus, les laisser aller, les laisser, pour ainsi dire, mourir en Jésus, et ensuite renaître en nouveauté de vie et marcher avec Jésus dans une nouvelle vie, comme Christ aussi s'est levé à ressusciter pour vivre une nouvelle vie glorifiée, une vie différente. Nous lisons au verset 7, et il nous a ressuscité ensemble et fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, etc. Et ensuite, vous lisez au verset 8, c'est un peu l'objectif, mais tout cela a beaucoup d'importance également. Le verset 8 nous dit « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. » Alors, tout est important ici, mais je vais prendre le temps pour que nous nous concentrions tout particulièrement sur les paroles du verset 8 à 10, et tout particulièrement, premièrement, celle du verset 8, qui nous déclare, cette fameuse déclaration très importante de la parole de Dieu, que vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela, c'est-à-dire cette foi, ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et même cette foi est un don. Donc, dans toutes ces choses-là, la grâce est de Dieu, la foi est de Dieu, la foi est le don de Dieu, la grâce également est également le don de Dieu, elle est la manifestation de sa grande miséricorde, qui est exprimé au verset 4, par laquelle Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Hein. Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et ensuite, au verset 9, nous lisons, « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » C'est-à-dire que, qu'est-ce qui n'est point par les œuvres? Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. C'est ce que je lis ici. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et ensuite, verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, qui est elle-même le don de Dieu. Et nous ne sommes point sauvés par les œuvres afin, je cite, que personne ne se glorifie. Car, il y a maintenant une précision, verset 10, nous sommes son ouvrage ayant été créé où? En Jésus-Christ. Pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. Nous voulons explorer cela ici à travers la parole de Dieu. Je vous invite à lire les paroles de Romains chapitre 5, verset 2, dans la continuité de ce raisonnement biblique qui nous présente et par lequel nous voulons explorer le sujet de la justice par la foi. Romains chapitre 5, verset 1 et 2. Donc, dans cette activité du salut par la grâce, par le moyen de la foi, et de ce pardon que nous trouvons à Dieu lorsque nous lui confessons nos fautes, après que nous ayons vécu une vie si misérable, qu'elle soit celle du passé, ou même nos mauvaises œuvres dans la vie présente chrétienne, ou soi-disant chrétienne, eh bien, dans Romains chapitre 5, verset 1, nous lisons, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc vous voyez, nous sommes justifiés par la foi et cela nous donne la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il nous pardonne nos péchés. Donc lorsque nous sommes pardonnés nos péchés, c'est-à-dire que pour nos péchés, Dieu nous donne sa justice, il efface notre ardoise, il couvre notre iniquité, hein, l'amour couvre une multitude d'iniquités, de péchés. L'amour de Dieu fait cela, et cela nous procure la paix avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu abolit l'inimitié à travers et en Jésus-Christ, à travers cette œuvre de réconciliation, de justification, je cite, par la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, verset 2, qui, par la foi, nous a aussi fait avoir accès à cette grâce, notez bien, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Réfléchissez ici avec moi quelques instants, non pas de votre raisonnement, sur lequel nous ne devrions pas notre appuyer, ni notre intelligence, mais selon le raisonnement de Dieu, que nous pouvons déduire et conclure et obtenir en lisant honnêtement la parole de Dieu, à savoir par cette même foi par laquelle nous sommes justifiés dans le salut par la grâce de Dieu. Nous lisons que nous avons aussi accès à cette grâce dans laquelle, je cite, l'apôtre Paul dit, nous demeurons fermes. Et à travers cette grâce par laquelle nous avons été justifiés par la foi et dans laquelle maintenant nous demeurons fermes, il dit, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? Nous avons vu sa gloire, sa justice. C'est son nom, son caractère, c'est qui Dieu est. C'est précisément cette gloire que nous avons perdue par le péché et à travers l'œuvre de la justification par la foi et de cette grâce par laquelle nous et dans laquelle nous demeurons fermes, hein, c'est-à-dire fermes dans les bonnes œuvres, eh bien, nous pouvons donc nous glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu, à savoir dans l'espérance d'être transformés et d'être rétablis à cette image à laquelle nous avions été faits originellement, c'est-à-dire l'image du Dieu très haut et du caractère de cette gloire de Dieu. Tel est donc ici, en quelques mots, le processus de la justification par la foi, à savoir nous sommes pardonnés et en rentrant dans cette activité du salut par la grâce de Dieu, nous avons également accès à une grâce qui nous permet de demeurer fermes. C'est-à-dire pas juste d'être pardonnés afin que nous puissions vivre selon nos propres chairs, à savoir comme c'était marqué dans Éphésiens chapitre 2, verset 1. Hein, vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde. Verset 3, parmi lesquels nous vivions tous autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, c'est-à-dire que lorsque Dieu, par sa grâce, nous introduit dans cette activité du salut par la grâce et non pas par les œuvres, eh bien, il le fait afin que maintenant nous ne vivions plus selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, mais que maintenant nous, à travers cette grâce à laquelle nous avons accès par Jésus-Christ, nous puissions désormais demeurer fermes. Et que dans cette même grâce, nous demeurions fermes. Nous voulons explorer cela à travers les paroles et l'élargissement de Jacques chapitre 2, versets 17 et 24. Jacques chapitre 2. Verset 17, tout d'abord. Alors, ce langage est un langage qui ne vous sera pas étranger et qui vous sera probablement familier et que beaucoup d'adventistes ont utilisé afin de défendre leurs convictions, mais qui, souvent, j'ai remarqué, n'est pas utilisé à bon escient ou du moins avec toute la sagesse qui vient d'en haut, d'une telle manière que ce passage puisse réellement avoir tous les avantages et nous procurer toute la bénédiction qu'il est censé renfermer si nous avons été préalablement instruits et éclairés par toute la totalité du panorama de la parole de Dieu et de la pensée de Dieu. Dans Jacques chapitre 2, verset 17, nous lisons ici, « Il en est de même de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même, ou comme c'est marqué dans la Bible King James, elle est morte étant seule. » Verset 18. « Mais quelqu'un dira, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres, et je vais le lire tel que c'est marqué ici dans la Bible Martin, Darby et Second, à savoir, « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils en tremblent. Alors vous voyez donc, il dit, les démons, ils ont la foi dont beaucoup se réclament aujourd'hui, toutefois ils n'ont pas les œuvres. Ils ont la foi passive. Les démons ont la foi de la croyance. La parole de Dieu nous dit que la foi de la croyance, ce n'est pas la foi de Dieu. Ce n'est pas la foi du salut par la grâce. Notez bien, verset 20. Mais, ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac, son fils, sur l'autel? Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite? Verset 23. Et ainsi, ce que dit l'Écriture s'accomplit, de point, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Verset 24. Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Que veulent dire ces choses, frères et sœurs? Parce que, vous voyez, souvent, nous sommes en danger de vouloir tellement gagner des arguments et des débats que nous allons pervertir la parole de Dieu dans ce même effort qui est le nôtre de gagner des arguments et des discussions. Nous allons pervertir parce que nous sommes tellement obsédés par le désir de gagner nos débats, de gagner dans nos discussions, d'avoir le dessus, que nous en perdons le désir de rester et de vivre sans cesse en harmonie avec tout le sens juste et pur de la parole de Dieu. J'aimerais vous poser la question ici, frères et sœurs, parce que nous avons lu au sujet du fait d'être justifié par la foi. Eh bien, dans quel sens seulement peut-il être dit, comme c'est écrit ici, que, je cite, « l'homme est justifié par les œuvres » et non par la foi seulement. Parce qu'il y a un sens dans lequel cette parole, cette déclaration biblique est vraie, et il y a un sens dans lequel cette déclaration biblique n'est pas vraie, à savoir le sens dans lequel nous serions enclins à le lire, mais qui n'est pas réellement le sens que Dieu cherche à communiquer à travers cette suite de mots, qui est d'ailleurs donné dans le contexte d'autres personnes qui prétendent avoir la foi, mais qui n'ont pas d'œuvre, à savoir qui ont une foi qui est, je cite, morte. Verset 20, ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte? C'est dans le contexte donc de cet effort de montrer qu'une foi sans œuvre n'est pas la vraie foi, qu'il nous est déclaré que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Quel est donc le sens de ces paroles? Nous voulons le savoir, non pas pour gagner un argument, non pas uniquement pour pouvoir étayer notre compréhension de la théorie de la vérité, mais pour pouvoir cerner plus étroitement et plus intimement le sens de la justice par la foi dans notre vie de tous les jours. C'est l'objectif de cette continuité de notre méditation à laquelle je vous invite maintenant. Alors, tout d'abord, les paroles d'Éphésiens chapitre 2, verset 9, nous mettent premièrement dans la certitude que, je cite, vous l'avez lu avec moi, Éphésiens chapitre 2, verset 9, ce n'est point par les œuvres que nous sommes sauvés. Éphésiens chapitre 2, verset 10, on le lisait. Verset 8, le contexte, car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Qu'est-ce qui n'est point par les œuvres? Si vous lisez le contexte ici, qu'est-ce qui n'est point par les œuvres? Verset 8, car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et donc, qu'est-ce qui n'est point par les œuvres? Le salut n'est point par les œuvres. Vous le voyez? Car vous êtes sauvés par la grâce, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, nous avons une définition biblique ici qui nous dit clairement, sans aucune ombre de doute, que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Allons-y, élargissons cette pensée et cette suite logique biblique que Dieu nous donne dans sa parole et que je ne suis pas du tout en train de déduire de mon propre raisonnement. Romains chapitre 11, verset 6. Nous sommes ici en train d'explorer la manière dont Dieu nous explique le sens qu'il donne et qu'il désire nous faire voir dans ses paroles de Jacques chapitre 2, verset 24. Romains chapitre 11, verset 6 nous dit au sujet de l'élection de la grâce et Verset 1, vous lisez, « Je demande donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Nullement, car je suis moi-même israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin, etc. » Ensuite, il parle donc, verset 5, « Il y en a donc aussi qui ont été réservés en ce temps selon l'élection de la grâce. » L'élection de la grâce, le salut par la grâce, tout cela est directement lié. Et verset 6, il dit, « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. » Autrement, la grâce ne serait plus une grâce. Au contraire, si c'est par les œuvres, ce n'est plus par la grâce. Autrement, les œuvres ne seraient plus des œuvres. Et nous poursuivons le raisonnement de Dieu dans Romains chapitre 4, verset 3, qui nous dit, verset 1 à 3, quel avantage dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Quel avantage selon la chair? Car si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non pas devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et donc, nous voulons nous rappeler ici les paroles de Jacques chapitre 2 verset 24 et comprendre vraiment que le sens qui est donné, que Dieu désire donner pour notre compréhension à ces paroles est purement contextuel dans l'argument au sujet de personnes qui prétendent avoir la foi mais qui n'ont pas d'œuvre. Il faut que nous saisissions cela parce qu'ici il nous est déclaré au sujet de Abraham qui nous est décrit comme le père de la foi. Je crois que c'est écrit dans la continuité. Là, je ne sais pas où c'est marqué ici. Je crois que c'est dans ce chapitre. Bref, nous lisons que Abraham n'a pas été justifié par les œuvres parce que autrement il aurait sujet de se glorifier. Vous voyez? Et vous lisez également dans Romains chapitre 3, versets 27 et 28. Vous allez voir ici, il y a une raison pour laquelle je lis toutes ces choses. Et vous allez voir que c'est complètement en harmonie avec tout le reste. Romains chapitre 3, verset 27, vous lisez. « Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Hein? » Par quelle loi le sujet de se glorifier est exclu? Par la loi de la foi. Notez bien. Verset 28. Nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Gardez ceci en tête, frères et sœurs. Nous voyons ici que l'homme, je cite, est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et également, vous prenez en compte le verset 21 qui nous dit « Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée sans la loi et les prophètes lui rendant témoignage. » Oui, c'est le verset 21, je crois que c'est ça. Oui, voilà. Voilà. Verset 22, la justice de Dieu, dis-je, par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux et sur tous ceux qui croient. Et donc, vous voyez ici que la distinction, à la lumière des paroles des versets 27 et 28, la distinction est faite ici des œuvres de la loi et des œuvres de la foi. Oui, parce que nous lisions au sujet de la loi de la foi. Et ce langage, vous le trouvez aussi, vous le trouvez d'ailleurs dérivé des paroles suivantes de Galates, dans Galates chapitre 5, versets 5 à 6. C'est pour ça que ce sujet de la justice par la foi, il est impératif pour nous de l'aborder en étayant beaucoup notre réflexion par différentes façons dont la parole de Dieu le présente, afin que nous ne devenions pas étroits dans notre manière de réfléchir sur le concept de la justice par la foi. Que cela ne devienne plus simplement une théorie qui est limitée par notre vision étroite de certains passages, mais que cela devienne une conception élargie et honnête de ce que Dieu a dit et de tout ce que Dieu a dit sur le sujet. Dans Galates chapitre 5, verset 5, nous lisons, car pour nous, nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice par la foi, car en Jésus-Christ, ce qui est efficace, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi agissant par la charité, ou la foi agissant par l'amour. Donc, qu'est-ce qui est efficace en Jésus-Christ ici et qui nous permet de faire d'ailleurs sens de beaucoup d'autres déclarations que nous avons lues tout à travers notre méditation aujourd'hui? Ce qui est efficace en Jésus-Christ, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, à savoir ce ne sont pas les œuvres de la loi, nous ne sommes pas justifiés par les œuvres de la loi, que ce soit la loi cérémonielle ou d'ailleurs la loi de Dieu, ce n'est pas notre observation personnel de la loi de Dieu qui nous justifiera, mais ce qui est efficace, c'est, je cite, la foi agissant par l'amour. C'est cela qui est efficace et c'est cela qui constitue la justice par la foi. Gardez toutes ces choses à l'esprit si nous allons arriver à notre destination. Ainsi donc, frères et sœurs, lorsque nous réfléchissons à ce que nous avons lu dans Jacques chapitre 2, versets 17 et 24, à savoir que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement, nous voyons qu'une foi sans œuvres ne serait pas une foi agissante. Vous comprenez? Si elle est sans œuvre, c'est-à-dire qu'elle ne fait rien, ou pour reprendre les paroles de l'apôtre Jacques, elle est morte, étant seule. Or, comme c'est marqué dans Jacques chapitre 2, verset 20. Or, telle n'est pas la foi dont Abraham, le premier exemple de la foi, était le détenteur, le possesseur. Ni même d'ailleurs, et premièrement, Jésus, nous est déclaré comme étant l'auteur et le consommateur de la foi, et qui était lui-même agissant, qui lui-même a agi, a fait beaucoup de bonnes œuvres. Hein? Mais pour lui, comme pour nous et comme pour Abraham, les bonnes œuvres devraient être le produit de cette foi agissant par l'amour. Ainsi, je poursuis, une foi qui n'implique pas de bonnes œuvres, en conséquence, ne peut transmettre à son possesseur le caractère de Dieu. Parce que nous lisons dans Christian Education à la page 92, verset 1, que les actions ou les actes produisent les habitudes et les habitudes forment le caractère. Et donc, si les actions produisent les habitudes et que les habitudes forment notre caractère, eh bien, si nous n'avons pas de bonnes actions, comment pouvons-nous faire former des bonnes habitudes et comment pouvons-nous donc former un bon et juste caractère? Vous comprenez que c'est impossible. Et donc, le sujet de la justice par la foi doit impérativement inclure pour nous les œuvres de la foi. Pas les œuvres de la loi, parce que nul homme ne sera justifié par les œuvres de la loi. C'est-à-dire les œuvres de la loi, c'est-à-dire agir et chercher à obéir à la loi simplement selon notre propre motivation qui vient de notre propre force. Nul ne sera justifié, ni d'ailleurs même certainement pas sauvé par ces œuvres-là. Certainement. C'était tout le sens et tout l'objectif de ces paroles que j'ai lues précédemment au sujet du fait que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Voyez? Aucune de nos propres œuvres, nos propres justices ne sont valables, acceptables et ne nous amènent quoi? Nulle part devant Dieu. Hein? Toutes nos justices, nous avons lu, sont comme un vêtement impur, un vêtement souillé. Telle est la valeur de nos justices. C'est dans ce sens-là qu'il est déclaré que l'homme ne peut être justifié par les œuvres de la loi. C'est impossible. Parce que les œuvres de la loi, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, sont comme un escabeau pour rejoindre la ceinture d'Orion. Hein, vous ne vous approcherez même pas du but, quoi. Même pas juste de quelques centimètres, 90 centimètres comparé à des milliards d'années-lumière. Telle est la proximité de la justice de Dieu à laquelle nous pouvons accéder par nos propres œuvres, à savoir les œuvres de la loi. Parce que les œuvres de la loi, ce sont les œuvres que nous pouvons accomplir selon notre propre force. Mais il nous est présenté la loi, une autre loi, c'est-à-dire la loi de la foi. C'est ce que nous lisions dans Romains chapitre 3. Et c'est vers ces choses-là que ce principe des actions qui produisent les habitudes et des habitudes qui forment le caractère, que cela nous dirige. Donc je répète, s'il n'y a pas de bonnes œuvres, à savoir les œuvres de la foi qui agit par l'amour, il ne peut résulter de bon caractère. Donc on voit ici comment la justice par la foi, encore une fois je le répète, c'est important, implique inévitablement des bonnes œuvres, mais que ces bonnes œuvres doivent être celles dans lesquelles nous avons été créés en Jésus-Christ, comme c'était marqué dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il faut que ce soit les bonnes œuvres qui ont été créées en Jésus-Christ afin que nous puissions marcher en elles. Donc elles sont déjà en Jésus-Christ, mais maintenant il nous incombe en tant que croyants professants en Jésus-Christ et disciples prétendus de Jésus-Christ de marcher en elles. Elles sont là, elles sont disponibles, ce que d'ailleurs nous allons voir, mais il nous incombe de marcher en elles, de les accepter. Et c'est dans ce sens, frères et sœurs, que donc l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. À savoir, il ne peut être justifié par une foi uniquement passive. Parce que, c'est ça qui est important, une telle foi... Parce que telle n'est pas la nature de la foi d'origine divine, à savoir la foi d'origine divine qui est d'une part la foi dont Abraham est le père et la foi dont Jésus est l'auteur. Cette foi-là est une foi qui agit, est une foi agissante, est une foi qui est accompagnée d'œuvres. Et donc si nous n'avons pas les œuvres, c'est qu'il nous faut revisiter pour ainsi dire, notre relation à Dieu. Vous comprenez? Si nous n'avons pas les œuvres, ça ne veut pas dire que maintenant il faut que nous sommes en train de chercher à être sauvés par les œuvres ou justifiés par les œuvres. Simplement que si nous n'avons pas les œuvres qui doivent accompagner la vraie foi, eh bien il nous faut revisiter notre relation avec Dieu et notre abandon à Dieu. Et c'est là maintenant que j'aimerais, pour conclure, vous inviter à contempler brièvement ce que nous allons y revenir, Dieu voulant, sabbat prochain, les paroles de Matthieu chapitre 22, versets 1 à 2, qui était notre lecture biblique, et versets 11 à 14. Matthieu chapitre 22, versets 1 à 2, au sujet de la parabole des noces. Jésus, prenant la parole, continua à leur parler en parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces de son fils. Verset 11. Et le roi, étant entré pour voir ce qui était à table, aperçut un homme qui n'était pas vêtu d'un vêtement de noces. Et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Et il eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-le pieds et mains, emportez-le et le jetez dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Verset 14. « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » À savoir, beaucoup sont appelés au salut, beaucoup sont appelés à avoir part à ce salut qui est seulement par la grâce, mais peu sont élus, peu sont choisis, peu vivent d'une telle manière qu'ils peuvent être choisis. Et je vous invite à contempler ces quelques brèves paroles de l'esprit de prophétie qui cristallise, pour ainsi dire, le sens de cette parabole de Jésus. Dans Parabole de Jésus, à la page 274, vers paragraphe 1 et 2, nous lisons le suivant. Celui qui est entré dans la salle du festin sans l'habit de noces représente la majorité de nos contemporains qui se disent chrétiens et se réclament des bénédictions et des privilèges de l'Évangile, mais qui n'éprouvent aucun besoin d'une transformation de caractère. Vous voyez ? Donc, cette personne qui est définie ici comme venant au banquet de noces, mais n'ayant pas l'habit de noces, représente les personnes qui se réclament des bénédictions et des privilèges de l'Évangile, donc d'être chrétien, mais qui n'éprouve, je cite, aucun besoin d'une transformation de caractère, à savoir, qui prêchent peut-être la justice par la foi, mais qui n'ont pas une réelle compréhension de toute la véritable signification de cette justice par la foi, qui doit inclure une transformation de caractère. Vous comprenez ? Parce que le caractère de Dieu, c'est ce vers quoi le pécheur doit revenir lorsqu'il est restauré de son péché. C'est-à-dire que s'il ne revient pas au caractère de Dieu, il n'y a pas de réel salut. Il n'y a pas de réelle restauration. Il n'y a pas de réelle rédemption. C'est juste du pardon. Mais du pardon sans transformation, c'est ce que d'ailleurs il pourrait même être donné aux démons. Et donc je continue. Il n'éprouve aucun besoin d'une transformation de caractère. Ils ne se sont jamais vraiment repentis de leur péché. Vous voyez ici les distinctions du sentiment de notre besoin d'une transformation de caractère. C'est directement relié au fait que nous soyons ou pas repentis de nos péchés. C'est ça qui va réellement déterminer s'il y a en nous, et il existe en nous, et il se produit en nous une transformation de caractère, s'il y a une repentance. Parce que une repentance inclut un changement d'action et donc un changement d'habitude, et c'est ce changement d'habitude qui va déclencher et entraîner un nouveau caractère. Et c'est ce nouveau caractère qui sera le rétablissement à l'image de Dieu. Et donc là, la purification de toutes nos iniquités, en harmonie avec les paroles de 1 Jean chapitre 1, verset 9. Ils ne réalisent pas la nécessité d'un sauveur et ne mettent pas leur confiance en Jésus. Ils n'ont pas vaincu leur tendance au mal héréditaire ou cultivé. Donc le salut par la grâce, hein, il s'agit du salut par la grâce, de la justification par la foi et non par les œuvres de la loi, mais par les œuvres de la foi, parce que ce sont les œuvres qui sont liées et inséparables de la vraie foi. Et donc ce salut par la grâce doit impliquer et comporter une victoire sur nos tendances au mal héréditaire ou cultivé. Vous voyez ? Mais ça ne rend pas un salut par les œuvres. C'est encore dans le contexte du salut par la grâce, par le moyen de la foi qui est le don de Dieu. Vous comprenez ? Simplement que si c'est la vraie foi, eh bien, alors cette foi est accompagnée des œuvres parce que nous lisons que la vraie foi, celle qui est efficace, seule efficace en Jésus-Christ, c'est celle qui agit par l'amour. Et donc, si il n'y a pas cet agissement dans nos vies, cette cet accompagnement inséparable de la vraie foi de Jésus-Christ, alors c'est qu'il nous faut revoir notre relation à Jésus-Christ. C'est tout. Ce n'est pas que maintenant nous cherchons à être sauvés par les œuvres, c'est qu'il faut revoir la foi parce qu'au tout départ, ça ne doit pas être la bonne. Parce que la vraie foi, c'est celle qui donne toutes nos affections, nos pensées, nos actions à Jésus-Christ, qui les abandonne à Dieu, afin que maintenant nous puissions avoir à la fois des pensées, des actions et des habitudes qui vont former un caractère selon l'image et la ressemblance de Christ. Cependant, ils ont une bonne opinion d'eux-mêmes et se fient à leur mérite au lieu de se confier en Christ. Auditeurs de la parole, ils viennent au banquet sans porter le vêtement de la justice de Christ. Voilà le sens de la parabole. Mais vous voyez comment c'est directement lié à ces choses auxquelles nous sommes confrontés en ces derniers jours. Non pas simplement dans les autres, mais en nous-mêmes. C'est-à-dire que si nous réclamons de Jésus et des privilèges d'être chrétiens et d'avoir toute la vérité en ces derniers jours, mais que nous n'acceptons pas la totale transformation de notre caractère, c'est qu'il nous faut revoir notre relation à Dieu et à sa parole et à son œuvre du salut par la grâce et par le moyen de la foi. Parce que si nous voulons avoir part au banquet de noces, hein, ce fameux banquet des noces de l'agneau, hein, lorsque l'Église sera ravie et aura part avec Jésus à cette grande réunion familiale au ciel, eh bien, il nous faut porter le vêtement de noces, l'habit de noces. Et celui-ci n'est autre que le vêtement de la justice de Christ. Je continue. Beaucoup parmi ceux qui se disent chrétiens ne sont que des moralistes. Est-ce que nous sommes des moralistes? Si nous sommes des moralistes, nous serons tout autant perdus que si nous n'avions jamais reçu et aimé et prêché la vérité. Moralistes, nous pouvons être perdus comme tous les autres moralistes humains qui n'ont pas la croyance dans la vérité que nous maintenons. Vous voyez? Beaucoup parmi ceux qui se disent chrétiens ne sont que des moralistes. Ils ont refusé le don qui seul pouvait faire d'eux des dignes représentants de Jésus ici-bas. L'œuvre du Saint-Esprit leur est totalement inconnue et ils ne suivent pas la parole de Dieu. Les principes du ciel distinguant ceux qui sont unis à Christ de ceux qui font corps avec le monde sont presque indiscernables dans leur vie. Les soi-disant disciples du maître ne forment plus un peuple particulier, séparé de tous les autres. La ligne de démarcation est floue. Pourquoi? Parce que la transformation de caractère est absente. C'est ça qui rend la ligne de démarcation floue. C'est-à-dire qu'il y a une profession de foi, mais le caractère est en train de se fondre au caractère du monde et donc il n'y a pas de distinction qui peut réellement être discernée. Pourquoi? Parce que il y a eu une absence de victoire sur les tendances au mal héréditaires ou cultivées. Vous voyez? Ça, c'est parce que nous n'avons pas la réelle foi qui agit par les œuvres. Nous avons une foi de profession, pas une foi d'action. Parce qu'une foi d'action va produire des habitudes qui formeront un caractère à la ressemblance de Jésus. La ligne de démarcation est floue. Ils se soumettent au monde, à ses coutumes, à ses pratiques, à son égoïsme. L'Église s'est jointe aux incroyants pour violer la loi de Dieu, alors que ceux-ci auraient dû se joindre à l'Église pour l'observer. Chaque jour, c'est l'Église qui se convertit au monde. Et ensuite, à la page de 272, paragraphe 1, je lis dans Parabole de Jésus, encore une fois, nous allons conclure par cela. C'est le roi lui-même qui faisait l'inspection de ses hôtes. Seuls ceux qui s'étaient conformés à ses directives et avaient revêtu l'habit de noces étaient reçus au banquet. Il en est de même pour les invités au banquet évangélique. Tous sont appelés à passer sous le regard scrutateur du grand roi. Tous, dans ce jugement investigatif qui a commencé en 1844, nous sommes tous appelés à passer devant ce regard scrutateur du grand roi. Et seuls ceux qui porteront la robe de la justice de Christ seront admis. Qui sera admis dans le ciel? Qui pourra franchir la fermeture des portes de la grâce avec les habits de noces? Ceux qui porteront la robe de la justice de Christ, ceux-là seront admis. Et ensuite, ça continue. La justice, c'est pratiquer ce qui est juste. C'est par ses actes que chacun sera jugé. Ce sont nos œuvres qui mettent en évidence notre caractère et l'authenticité de notre foi. En d'autres termes, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nos œuvres mettent en évidence notre caractère et l'authenticité de notre foi, à savoir si nous avons la foi authentique, notre caractère sera le résultat d'actions qui ont été motivées par la foi d'origine divine qui agit par l'amour. Vous voyez? Donc en fait, lorsque nous regardons à nos œuvres, nous ne devrions pas regarder à nos œuvres pour avoir le sentiment d'être accepté devant Dieu, mais nos œuvres devraient être un thermomètre de la foi qui est la nôtre. Sauf que dans ce thermomètre, il n'y a pas plusieurs degrés, ça dit soit plus ou moins. Soit nous avons la foi qui est de Dieu, soit nous n'avons pas la vraie foi. Nous avons juste une opinion. Si nous avons une opinion, nous pouvons vivre selon les œuvres de la loi, nous pouvons faire des bonnes actions, mais ce ne sont pas des actions qui sont acceptables devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas du port, de la robe, de la justice de Christ. Ce sont simplement nos propres justices qui ont une belle apparence, mais qui ne nous rendent pas acceptables devant Dieu. Parce que nous avions lu, je vous le rappelle, qu'est-ce que c'était? L'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Vous comprenez? De la loi. Mais les œuvres de la foi manifeste que nous avons la foi authentique. Je poursuis. Il ne suffit pas de croire que Jésus n'est pas un imposteur et que la Bible n'est pas un recueil de fables habilement conçues. On peut admettre que le nom de Jésus est le seul nom qui ait été donné aux hommes pour être sauvés et néanmoins ne pas l'accepter comme sauveur personnel. Croire à la théorie de la vérité, se dire chrétien, faire inscrire son nom sur les registres d'église ne suffit pas. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, elle cite, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Si nous gardons ses commandements, encore une fois, si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. C'est à ce signe qu'on reconnaît une véritable conversion. Quelle que soit notre profession de foi, elle est inutile si Christ ne se manifeste pas en nous par les œuvres de justice. Je vais terminer avec cela, page 271, paragraphe 2. Seuls les vêtements qui ont été préparés par Jésus lui-même nous permettront de nous présenter en la présence de Dieu. Christ enveloppera de sa robe de justice tous ceux qui se repentent et qui croient. Je te conseille, dit-il, d'acheter de moi des vêtements blancs pour être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Je vais arrêter ici, frères et sœurs, et je vais reprendre cette citation-là, sabbat prochain, par la grâce de Dieu, où nous allons pouvoir élargir et approfondir ce sujet de la robe de la justice de Christ. Et nous allons pouvoir aller dans d'autres directions, Dieu aidant, qui seront dans une direction qui sera tout de même liée au sujet important, capital pour nous, de la justice par la foi. Puisse, frères et sœurs, Dieu réellement nourrir notre motivation à servir Dieu, à être réconcilié avec lui et à marcher conformément à cette foi et à cette grâce dans laquelle nous pouvons et nous sommes appelés à demeurer fermes afin également de nous glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu, l'espérance de voir en nous le caractère de Dieu reproduit. Ma prière, frères et sœurs, que Dieu réellement nourrisse ses pensées en nous et nous donne l'espérance. L'espérance non pas simplement d'être transformé physiquement, mais l'espérance d'ores et déjà les efforts pour nous conformer à cette vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ma prière, que Dieu vous bénisse et à très bientôt au nom de Jésus. Amen.